Du coq à l'âme, c'est amplifier nos voix en racontant nos histoires depuis nos centres.
Je suis Zoubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversation féminine. Sénégalaise née au Burkina, maître de conférences, docteur ès lettres, professeur de littérature et de didactique du français, formatrice des professeurs de français, spécialiste en littérature africaine, française et francophone, engagée dans la vie associative, militante en faveur de l'éducation des filles et de l'égalité de genre, écrivaine, critique littéraire, ancienne inspectrice générale de l'éducation nationale, ancienne chef de département de lettres modernes de l'École normale supérieure, membre fondateur et ancienne présidente de l'Association sénégalaise des professeurs de français, responsable d'association, animatrice de revues pédagogiques, coordinatrice nationale du réseau des professeurs de français pour l'éducation des filles et la formation des femmes en Afrique, autrice de « La fileuse d'amour » parue en 2013, « Maria Mendoy, un certain regard » en 2020, tous deux aux éditions Harmattan. Mon premier souvenir d'elle remonte à Saint-Louis. En ce temps, elle n'était pour moi que la maman de Nini et de Fatou. Des années ont passé depuis cette première rencontre où je suis allée découvrir l'intellectuelle brillante et l'amoureuse des livres, de sa générosité extraordinaire dans le partage de sa voix, de son engagement sans faille à soutenir et accompagner toutes les formes d'expression littéraire, de son sens élevé du partage, de sa présence, de sa disponibilité, de sa sollicitude et de sa bienveillance. Tata André-Marie Diagne, bienvenue dans Conversation féminine.
Bonjour Zoubida, est-ce que c'est bien de moi que tu parles en ces termes? C'est beaucoup, je vais rougir un peu, mais je suis très foncée de peau, fière d'être noire, oui. Mais très heureuse de me retrouver devant toi dans cette nouvelle page de Conversation féminine. Et je commence par te féliciter, par encourager toute l'équipe à aller de l'avant comme tu le fais. Et pour nous qui sommes déjà de l'autre côté, à la retraite, nous sommes très contentes de tout ce que les jeunes femmes font aujourd'hui au Sénégal en matière d'initiative, d'innovation. Et vraiment, moi, je suis très fière de toi.
Merci, merci beaucoup, Tata André-Marie. Je crois qu'on essaie de caler ça depuis longtemps, depuis oui, plus d'un
vrai,
an d'ailleurs.
On a reculé ça
plusieurs fois voilà. Pour pouvoir se retrouver ici. Mm-hmm. Mais je sais que tu écoutes chaque épisode, je le sais.
Tout à fait.
Parce qu'à chaque fois, je reçois ce retour-là et on peut échanger.
Oui.
En faisant ta présentation, j'ai énoncé beaucoup de choses.
Oui.
Et comme vous toutes, et comme je le dis à chaque fois, ça ne nous dit pas vraiment qui vous êtes.
Non.
Ça nous dit tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli, mais ça ne nous dit pas ce que ça a coûté. Et okay. comment vous en êtes arrivée là. Qui es-tu, Tata?
Alors, qui je suis?
Oui.
Je vais dire une petite Samo, c'est mon ethnie. Mm-hmm. Mon père et ma mère sont de la même ethnie. Née en Haute-Volta. En plein milieu du 20e siècle, quand je dis ça, on sait où
c'est. C'est vraiment au milieu du 20e siècle,
on est d'accord. Au milieu du 20e siècle. Et je ne m'attendais pas à passer ma vie au Sénégal. Hein.
Oui.
Pourquoi? Parce que quand j'étais élève au collège, au lycée, chaque fois qu'il y avait des grèves à l'université de Dakar, on renvoyait tous les étudiants des autres pays chez eux. Et donc, nous, le spectacle, c'était d'aller à l'aéroport de Ouagadougou, assister au retour de ces étudiants. Et pour rien au monde, j'aurais voulu venir à l'université de Dakar. Mm. Donc, tu vois un peu cette ruse du destin qui, par un détour, la philosophie à Bordeaux, me ramène au Sénégal. Voilà, un tout petit peu.
Mais du coup, je vais demander comment tu as fait pour arriver au Sénégal.
Comment j'ai fait pour arriver au Sénégal?
Alors, tu ne voulais pas venir au Sénégal.
Non, je ne voulais pas. Donc, je débarque en 1969 avec mon bac, en septembre, dans un Paris pluvieux, pour aller faire, on m'a dit, tu vas faire prépa. Je crois que par rapport aux enfants sénégalais, je ne savais pas trop dans quelle galère on m'avait envoyé, les classes prépa. Et donc, je débarque et puis on nous dispatche. Toi, tu vas à Bordeaux, toi, tu vas à Dijon, il y en a qui restent à Paris. Et donc, je me retrouve dans le train, Paris-Bordeaux. Et à l'accueil, le CROUS, comme on le dit là, le Centre des œuvres universitaires, envoie deux jeunes Sénégalais venir accueillir ces trois jeunes filles. On était trois, mm-hmm. avec une amie de toujours, Awa Tiongan, qui a été directrice de la statistique,
oui.
que tu connais
oui.
peut-être
oui.
aussi.
Que hein. je cherche à faire venir dans Conversation féminine, s'il te plaît.
On se connaît depuis 69, tu
comme
imagines
quoi, comme
et
quoi.
Nos filles ont grandi ensemble et nous continuons à...
Eh bien, le monde voilà. est petit.
Le monde est petit. Donc, je débarque avec une autre qui s'appelle Radissar mm-hmm. et qui vient nous accueillir, un certain Mamoussé Gaïntou Noiro là, et puis un autre qui était un matheux, voilà. Ouais. Et donc, on est dans la même école à Camille Julien. Moi, je suis venue faire philo. Lui, il avait fait lettres modernes. Et il veut virer en philo. Moi, je commence par philo et après, je dis... Bon, quand on a commencé à cheminer ensemble, je dis deux philosophes dans la maison. Non, ça va être compliqué. Et je décide de faire une licence de lettres modernes et de prendre plutôt cette option. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, je me dis, si je retourne à Ouaga, mm-hmm. avec mes diplômes de philo, ils vont me dire d'enseigner le français parce qu'il n'y avait pas beaucoup de classes de terminale. Mm-hmm. Donc, j'ai fait le français en me disant, tu vois, beaucoup comme des gens comme Cheikh Hamidou Kane, mm-hmm. souvent, ils ont choisi plusieurs filières mm-hmm. au niveau de la licence. Donc, voilà mon projet orienté vers la Haute-Volta, hein, oui. pas le Sénégal.
Toujours pas le Sénégal, en
pas
perspective.
Encore.
Même après la rencontre, l'aéroport,
non, mais la rencontre,
le cheminement.
Je l'ai éloignée parce que mes parents ils n'étaient pas prêts oui. à ne pas me voir revenir.
Exactement.
Ça a été difficile
mais
aussi.
Mais c'est ça, parce qu'en général, tes parents, ils t'envoient en
ils
espérant
oui.
que tu reviennes.
Et puis à l'école, à l'époque, je l'ai dit, j'avais fait exact. Depuis le CM1 mm-hmm. Dans les écoles de sœurs.
En internat?
En internat, du CM1
ah, oui.
jusqu'à la terminale. Donc, ça te donne une éducation.
Mais c'est ça. Tu es, du coup, tu n'es plus en famille en vrai. Comment tu le vis, tout ça?
Là, je pense que par rapport à mes autres camarades qui pleuraient dans le train entre Ouaga et Bobo, parce mm-hmm. qu'on prenait le train, après on allait à Toussiana, là, mm-hmm. où il y avait une école des sœurs avec internat. Moi, non, ça ne me faisait pas pleurer. Mm-hmm. Bon, on s'adaptait, on était entre filles là-bas, mais il y en a qui pleuraient jusqu'à l'arrivée dans le train. Et puis, bon, comme on était là, il fallait s'adapter avec les bonnes sœurs et nous ont bien formés. Mm-hmm. Et après, donc, je suis allée dans une autre école, mm-hmm. cette fois-ci le collège Notre-Dame de Colonaba à Ouagadougou, qui est comme Kennedy ici, c'était que des filles à l'internat. Mm-hmm. Et on sortait tous les 15 jours, on retrouvait les parents, on était contents et puis on retournait à l'école.
Dans ta construction, oui. comment tu as fait? Parce que tu n'as pas forcément de figure maternelle ou de figure paternelle quand tu passes beaucoup plus de temps dans un internat qu'ailleurs. Est-ce que tu l'as senti à certains moments ou pas?
La figure maternelle, je crois qu'elle est très forte parce
oui.
que quand j'ai décidé mm-hmm. de consacrer mon recueil de nouvelles à la fileuse d'amour,
oui.
c'est parce que oui. un jour, pour préparer la fête des mères, une de mes collègues et amies, donc de la FASTEF, ENS, me demande « Qu'est-ce que ta mère représente pour toi ?»
oui.
On est parti de ça. Mm-hmm. Ah, je me mets à réfléchir. J'ai dit, ma mère, elle n'est pas allée loin à l'école. Hein. On va mm-hmm. dire qu'elle n'a même pas le certificat d'études. Mais c'est elle qui m'a appris à lire.
Mm-hmm.
C'est elle qui m'a fait IOA mm-hmm. avec rigueur, avec tout ce qu'elle savait. Et je dis, il m'arrivait le soir, quand elle avait fini sa journée de travail, on s'assoyait à côté d'elle parce que dans l'éducation des filles Samo, il fallait savoir filer le coton. Et elle, tous les soirs, quand elle avait fini sa journée, elle avait son panier de coton et parfois elle nous disait « Tiens-moi cette pelote de fil-là mm-hmm. qu'il fallait transférer. » Et puis là, je disais avec rigueur « Tiens-la droit et tout.
Mm-hmm. »
Donc, je dis, j'ai appris avec ma mère beaucoup de choses.
Mm-hmm.
J'ai appris d'abord à aimer le travail, une valeur qu'elle tient de son père, mon grand-père Paul que j'adore. Hein? Mm-hmm. Il y a un petit Paul à côté.
Il y a un petit Paul à côté.
Donc, cette valeur-là, je l'ai reçue de ma mère. J'ai appris à tout faire dans une maison, balayer, faire la cuisine. Et comme ma mère a eu une ribambelle de fille 8, pendant les vacances, on m'aimait, hein,
mm-hmm,
tous les deux
ouais.
jours. Il y en a une qui était
qui
de
était
tour,
tour
pour
exactement.
La cuisine. Ensuite, c'était nettoyer la maison,
mm-hmm.
faire le linge, parce qu'elle adorait tellement faire le linge que mon père disait, tant qu'il y a du savon et de l'eau,
mm-hmm.
elle y va.
Elle y va.
Et nous, on ne pouvait pas la regarder,
mm-hmm.
faire ça et ne pas l'aider.
Oui.
Donc, l'amour du travail.
Oui.
Et aussi une sorte de générosité. Je me rappelle une scène, une de mes sœurs qui arrive de l'école un midi, Elle se met à pleurer. Pourquoi? Parce que maman a reçu plein de visiteurs à qui elle a dit tu manges un peu, tu manges un peu. Et quand les enfants sont revenus de l'école, ils avaient tout mangé. Donc, j'ai dit, c'était un peu ça, ma mère. Je l'ai vue sur plusieurs actes de générosité, aimer les autres. Je crois que ça aussi, ça s'acquiert.
Oui.
Et ça, c'est mon héritage maternel. Oui. J'en suis fière.
Et il est très beau et il permet justement d'anticiper la question que je me pose à chaque fois sur la place qui t'était destinée.
Ah, voilà. Parce que des filles dans la maison, on sait que les hommes africains, ils aiment avoir un héritier.
Mm-hmm.
Avant moi, elle a eu un garçon qui est décédé, de méningite à l'époque, c'était pas... Elle prend son bébé pour aller voir sa cousine dont l'enfant est malade. Elle chope la méningite et puis le garçon, il part. Et après, il faut attendre jusque, je sais pas combien de filles pour avoir un autre garçon. Donc, ma mère, on va dire, c'est celle à qui on disait, encore une fille, Madame Bonanné, encore une fille, encore une fille. Et elle répondait, mes filles sont de l'or à mes oreilles. Donc, j'ai appris que il y avait une sorte d'égalité dans sa tête entre garçon et fille. Le paradoxe dans sa vie, c'est qu'elle est l'unique fille
dans sa lignée.
Et on imagine, je veux dire, pendant sa jeunesse, ce que ça suppose dans un village. D'être la seule fille à aider ta mère à travailler, vous voyez, un peu, il y a ça. Et maintenant, le bon Dieu la récompense, quoi. Il lui donne plein de filles et quelques garçons.
Ouais.
Donc, cette relation dans la famille, le genre, moi, j'en prends conscience, je dirais, je me rappelle une fois, je prends mon livre, je crois que j'étais au CE1 ou au CE2, et j'écris André-Marie Bonanné Toé, le nom de ma mère. Parce que j'ai dit, mais pourquoi on ne met que le nom du père? Il faut bien mettre le nom de la mère. Mon père était furieux, j'ai rien compris. Pourquoi j'ai ajouté le nom de ma mère? Jusqu'à présent, je ne sais pas.
Mais c'est intéressant parce que quand tu parles de la figure maternelle et du recul que tu as pris pour pouvoir justement l'observer, l'analyser et comprendre en quoi elle avait participé à ta construction. Si je te pose la même question pour ton père, tu mettrais quoi?
Alors, mon père, c'est d'abord quelqu'un dont j'étais très proche parce que j'étais la seconde fille.
Oui.
Il était plus sévère avec sa fille aînée.
L'aînée.
Moi, bon, j'arrivais à tricher un peu avec sa sévérité. Et c'est surtout la figure du maître d'école, directeur d'école.
Parce qu'à l'époque, enseignant.
Oui. C'est pour ça que je suis devenue enseignante.
C'est intéressant, voilà. Ça m'intéresse de savoir ça.
À l'époque, on a commencé, il arrive dans un petit village de Haute-Volta où il installe la première école primaire. Il y avait un bâtiment construit, mais pour une seule classe. Donc, il avançait et tous les deux ans, il devait
rajouter une classe pour le passage.
Alors, pas de jardin d'enfants.
Oui.
Moi, j'anticipe, je suis ma grande sœur, je vais en classe avec elle, j'apprends à lire et à écrire, mais je n'ai pas l'âge d'être inscrite. Et quand j'ai eu l'âge, il me rétrograde avec des enfants qui ne comprenaient rien, ni au français, ni au... J'en ai pleuré, je dis, mais je vais...
C'est ça. C'est tu sais, ce concept d'école. De Dello, c'est incroyable.
Non, hein? Et puis, à l'époque, ma classe, on était sous un arbre. On a commencé l'école sous un arbre.
Comment ça, sous un arbre?
Il n'y avait qu'un bâtiment.
Oui, c'est vrai. C'était le premier qui posait.
C'était d'abord sous l'arbre, la nouvelle classe de CI.
Oui.
Et ensuite, un hangar. Et de temps en temps, on hurlait. Il y a un serpent qui siffle sur le toit. Et tout le monde s'égayait. On partait. Et puis après, on a eu notre classe, on a eu un bâtiment. Donc ça, c'est l'école en brousse, pendant, à la fin de la colonisation. Je vis avec ça. Bon, j'adore l'école, j'aime lire et tout. Et ce qui arrive dans notre vie familiale, on est en 58. Un jour, il y a une belle voiture, à l'époque, on est en brousse, hein? Une belle voiture qui arrive dans ce village-là, Satiri, je dis le nom. Et qui enlève mon père. Je dis bien enlever mon père parce qu'on a eu tellement peur. Avec la maman, on s'enfermait la nuit, on priait parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre papa? Il est parti, on ne le voit pas. On avait peur. Et puis un beau jour, il revient. Et on nous dit, il est nommé ministre dans le gouvernement de Wesen Koulibaly.
Du village au
ministre. Du village à la capitale Ouagadougou. Voilà un peu. Le miracle qui s'est produit dans ma vie. Sinon, j'aurais épousé un petit villageois. Donc, nous voilà. C'est dingue. Nous voilà transplantés dans la capitale. Et le président Ouezzin Koulibaly avait beaucoup d'affection pour mon père. Je ne sais pas, mon père m'a dit qu'il a regardé sa main. Il a dit, nous avons les mêmes...
Très là, je ne sais pas
c'est
comment ça s'appelle.
Rare, oui. Okay. Donc, il a été quelques mois ministre de Ouezzin Koulibaly qui est décédé. Mm-hmm. Rapidement, il a été pendant la colonisation, mm-hmm. le président. Et puis, le premier président après, c'est Maurice Yamero. Mm-hmm. Mon père est entré dans la politique. Donc, c'est pour dire qu'après, on n'était plus des petits villageois, on est devenus des citadins.
Ah, de la bourgeoisie Ouaga, de Ouaga.
Voilà, et même par rapport au village natal.
Oui.
Alors, l'histoire aussi, c'est un père qui était très tôt orphelin, mm-hmm. qui a été élevé par le papa du professeur Kizerbo,
oui.
qui est mon nom donc, quelque oui. part, hein, mm-hmm. parce que ma grand-mère, ses premiers enfants sont ceux du frère du papa Alfred Kizerbo.
Okay,
donc,
d'accord.
c'est ce grand-père-là dont je lisais un document hier qui disait qu'il est le premier chrétien de Haute-Volta. Vous imaginez ça? C'est lourd à porter sur les épaules. Et quand on était petit, on allait au village. Et ce grand-père-là, papa Alfred Diban, il nous disait que le dimanche, lui, il va à trois messes. Parce qu'il y a trois messes, c'est le jour du Seigneur.
Oui.
Parce que tous les jours, il va à la messe.
Exact.
On lui disait, grand-père, c'est trop, trois messes. Il dit, non, c'est pour le Seigneur. Donc, pour dire que j'ai grandi dans une famille où il y avait... La religion.
Très présente.
Très présente. Il y avait la famille, le sens de la famille. Et aussi ce lien constant avec le village. On n'a jamais perdu les liens parce que chaque vacances, 15 août, comme les gens faisaient la fête à Gorée, là, nous, on allait au village. Et là-bas, j'ai appris à aller au champ avec le bol de thau sur la tête pour aller donner aux gens qui travaillaient dans les champs. J'ai revécu avec mes cousines la vie des filles au village où il n'y avait pas de machine à, comment dirais-je,
à coudre. Ou non. À moudre.
À moudre, il fallait piler, écraser. Donc, le contraste entre la vie en ville et la vie au village. Donc, ça a été ça aussi, une sorte d'apprentissage du sens de la communauté. Et qu'à l'époque, bon, quand on était député ou ministre d'une région, on porte toute la région avec soi. Et comme au village là où il était directeur d'école, il était à la fois l'infirmier, le conseiller juridique, il faisait tout en même temps. Et donc, quand il est décédé, mon père... les gens du village de Satiri là sont venus en délégation. Il s'est passé quelque chose ce jour-là, une espèce de vent frais qui a accompagné la délégation. Je ne sais pas si c'est mystique ou quoi, mais la reconnaissance qu'il devait à mon père parce qu'il a introduit l'école. Il a adopté des enfants de cette école, de ce village, qu'il a formé, qui sont devenus des infirmiers. Et donc, je dis, moi, cette passion de partager, je la tiens aussi de mon père. Voilà.
Exactement. Et c'est une très belle histoire. Oui. Est-ce qu'il est arrivé du coup dans cette éducation-là? Et c'était à la base, c'était ça à ça que je pensais.
Oui.
Qu'on dise, tu deviendras ceci, ma fille. Tu vois cette sorte d'injonction où on te trace plus ou moins un chemin que tu es censé occuper.
Alors, le chemin, peut-être pour mes parents, c'est d'abord pour des filles bien se conduire.
Oui. Et c'est quoi bien se conduire, d'ailleurs?
À l'époque, je dis, nous, quand on faisait bison à un garçon, c'était déjà beaucoup.
C'était déjà mal se conduire. Ça, c'était mal se conduire.
Fait attention, elle a fait bisou à un tel. Aïe, aïe, aïe.
Oui,
ah bon, donc tu vois des choses comme ça, quand on est à l'internat, il arrivait que des filles tombent enceintes. Et à l'époque, on les renvoie. C'était le scandale avec les religieuses et tout. On ne pouvait pas accepter donc, cette condition-là. Donc quand on élève des filles, il faut les conduire. Je vois un téléfilm là, je ne sais plus quel est le nom de
Bété,
où on te dit... Ma fille s'est mariée vierge. Exact. Qu'est-ce que ça représente pour mes parents? Ils ne nous disaient pas ça.
Vous saviez qu'il y avait des règles à respecter.
Qu'on se comporte d'une certaine façon. Et que surtout pour mon père, ne me parle pas de te marier tant que tu n'as pas fait tes études. Donc ça au moins, il nous a mis dans la tête que notre premier mari, c'est notre diplôme pour être autonome. Pas tendre la main, pas tout attendre du mari. Donc, s'assumer. Je pense que ça aussi, ça fait partie de l'éducation qu'on a reçue. Non, faut son man, maman, Catherine. Non, faut son man, comme maman, Catherine, on faut.
Et du coup, jamais il n'a prévu que quand tu iras en France, tu ne rentreras pas au Burkina. Ça, ce n'était pas prévu. Du coup, même dans le chemin de trace.
Il a été très malheureux.
Comment ça s'est passé en vrai? Wow. Si tu veux revenir sur ça, parce que c'est important de savoir, est-ce que tu veux déjà revenir sur ça? Parce que si tel
si
est le cas...
Si je veux bien revenir, parce que moi-même au départ, je n'avais pas mis dans ma tête que j'allais tomber amoureuse d'un Sénégalais, ce n'était pas mon plan. Hein.
Vraiment.
J'avais un petit copain à qui je faisais des petits bisous, mais je lui ai dit carrément à ce Sénégalais, ce n'est pas la peine de te fatiguer, exactement. J'ai déjà un petit copain. Mm-hmm. On n'est pas ensemble, mais c'est mon petit copain, voilà. Oui. Et puis voilà, comme ça, à force de faire la philo et le reste ensemble. Oui. Bon, alors, mais j'ai dit, pour me marier, il me faut l'autorisation de mes parents.
Oui.
Il faut en parler aux parents. Je suis d'une famille chrétienne et lui, il est musulman. Donc déjà, il y avait presque quasi impossible. Mm-hmm. Et j'ai dit, mon père en a beaucoup souffert parce que j'étais... mes soeurs me disent, tu étais sa préférée, j'aime pas trop ça.
Oui.
Mais bon. Pour lui, c'était dur. Mm-hmm. C'était dur de laisser partir sa fille. Et pour lui, bon, je lui ai dit, le Sénégal, c'était un peu l'aventure. Mm-hmm. Il se disait, quand je vais débarquer ici, est-ce que je vais voir un peu les baraques de la Médina, là? Dans son esprit, c'était ça. Il avait un peu peur parce que chaque fois, il avait des amis qui venaient se confier à lui en lui disant, ma fille est partie au Togo, au Bénin, à épouser un étranger. Mm-hmm. Et puis, on l'a renvoyée avec... 2 ou 3 enfants. Mm-hmm. Donc, quand il voyait ça, il n'avait pas envie que je vive.
Clairement.
Mais moi, ça a été, on va dire, l'épée de Damoclès. J'ai dit, si tu épouses un Sénégalais, c'est pas pour échouer.
Ah!
Ça m'a aidée. Parce que dans tout ménage, c'est pas facile.
Non!
Hein, d'être transplantée de Bordeaux à Dakar.
D'une culture à une autre,
mais
d'un pays à
l'autre. Je suis quand même allée
un
enseigner une année à Ouaga.
Oui.
Pour les calmer un peu.
Oui, le temps que
j'ai commencé ma carrière d'enseignante à Ouagadougou. Mm-hmm. Et j'ai eu mon fils aîné là-bas. Mm-hmm. Et bon, ce qui s'est passé, c'était merveilleux. Donc, pour l'arrivée du bébé, Mamoussé, il était à Paris, là. Il avait déjà l'agrégation. Senghor lui avait offert la possibilité de rester faire sa thèse à la rue d'Ulm et tout. Et il vient pour la naissance du bébé. Alors, panique dans la maison, la rencontre entre papa et son beau-fils, là, qui lui a...
Celui qui lui a volé sa fille pour l'amener au Sénégal.
Voilà, donc, quelques temps, il n'était pas à Ouaga à l'époque, quelques temps avant l'arrivée de Mamoussé, il envoie des pintades en disant, pour l'étranger qui va arriver. Mm-hmm. Bon, déjà, c'était assez gentil.
Oui, oui.
Et puis, le jour où il est à la maison, Mamoussé est déjà arrivé. On lui dit, papa est arrivé la nuit. Il est assis dans la cour. Bon, Mamoussé sort. Ils se rencontrent tous les deux. Et mon père lui dit, c'est fini la guerre des ondes.
Oui.
Ils se sont assis. Ils ont causé comme de vieux copains. Et nous, derrière les portes, on les regardait en disant, non, c'est pas vrai. Ils nous ont fait marcher.
Clairement.
Et c'était adopté.
Oui.
Alors, le fait que je sois venue à Dakar aussi dans la famille, j'ai une sœur qui a fait médecine ici.
Finalement.
Qui est agrégée de gynécologie. J'ai un neveu qui a fait médecine. Et tous les petits Burkinabés qui arrivaient, voltaïques et puis Burkinabés qui arrivaient, j'étais la tata qui était là.
Exactement.
Mes deux sœurs sont venues au Césac et papa disait, heureusement que Marie est à Dakar.
Oui.
Donc, vous voyez que tout peut changer. Dans la mentalité des parents, il faut savoir négocier.
Oui.
Moi, j'ai dit, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, je ne veux pas être un obstacle entre Mamoussé et sa famille. Je n'aimerais pas qu'il soit aussi
un obstacle entre ta famille.
Donc, on a deux familles, on est entre les deux, mais on aime nos familles. Mmh. Donc, il faut qu'on fasse en sorte que cette paix-là règne. Mmh. Parce qu'un couple qui fiche le camp parce que la belle-mère, le beau-père a fait ceci ou cela. Mais tu entends ça tout le temps aujourd'hui, Zoubida. Les crises des ménages, des jeunes.
Tout le temps.
C'est un drame pour nous.
C'est un drame.
Parce que pour moi, la famille, c'est très important. Mmh. Se sentir bien dans cette famille. Notre mère était une confidente parce qu'il nous arrivait. On venait en parler anglais à côté d'elle, de nos petits problèmes. Et puis, elle disait, « Oh, vous pensez que je ne sais pas de quoi vous parlez ?» On lui dit, « Bon, puisque tu sais maintenant, va te le dire. Va te le dire. Oui. » Pour dire qu'en même temps, mm-hmm. elle nous accompagnait dans tous ces petits problèmes-là. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça aussi une maman. Pouvoir compter sur elle quand on a des problèmes mm-hmm. Dont on ne peut pas parler au papa. Ça peut être ça aussi.
Oui.
Oui, des problèmes de femme.
C'est ça. Et en fait, je me rends compte aussi en te parlant que ça traverse plus ou moins toutes nos cultures ouest-africaines.
Tout à fait.
Ce fait de ne pas aborder certains sujets oui. avec les hommes,
non.
de beaucoup plus les aborder
c'est
avec
la
les femmes.
Maman, c'est la maman.
Que ce soit la maman qui porte l'éducation,
oui.
qui porte le stress,
oui.
faut pas tomber enceinte, faut pas faire ci,
voilà.
faut pas machin, parce que
qui
t'accompagne, parce que voilà, c'est
qui
aussi.
Qui te met en garde, parce que j'ai une de mes sœurs, elle a eu une petite fille, mm-hmm. et elle dit en regardant la photo de sa petite fille, quand je la regarde, j'ai l'impression que c'est les yeux de maman sur moi mm-hmm. qui me remettent au pas. Suffisait d'un regard pour que tu saches, par exemple, s'habiller. Mm. Comment s'habiller pour les jeunes aujourd'hui? Mm. Mm. Parfois, je dis, bon, je suis vieux jeu peut-être. Mm-hmm. Je suis choquée parce que selon ta morphologie, mm-hmm. tu peux prendre des habits que tu peux mettre dans la rue. Mm-hmm. Mais parfois, je vois des filles habillées d'une certaine façon mm-hmm. et je dis, pauvre garçon, sont des tentations ambulantes.
Laisse-nous tranquille.
Oui, je vous laisse tranquille. Hein. Mais attention, après, quand il vous arrive d'autres complications.
Oui, mais est-ce que, en vrai, plus sérieusement sur ce sujet-là,
oui.
Mais quand il va, peu importe ce qu'on met quelque part, il arrive quelque chose. J'entends ton point, hein. Il arrive toujours quelque chose.
C'est vrai.
C'est ça la grande difficulté. C'est qu'il arrive toujours quelque chose, qu'on soit voilé de la tête aux pieds, qu'on soit
oui.
nu, qu'on soit à moitié habillé, qu'on soit... On est en sécurité nulle part.
On est en sécurité, mais...
Mais j'entends
chose,
ce que tu veux dire, hein. J'entends parfaitement. Ma mère tient exactement
oui.
la même.
Oui.
À chaque fois, on a cette discussion-là avec elle où je lui dis, maman, arrête de dire ça. Parce qu'après, ça génère de la culpabilité, etc. et tout. Mais je comprends ce que
oui,
tu veux. Je comprends
quand même un peu de
de la pudeur de soi.
De,
soi, oui.
de pudeur
as,
quelque
ouais.
part. Hein.
Je pense
que c'est
pense,
ça aussi.
Pour toi, c'est oui,
oui
c'est important
ça,
qu'il y ait de la pudeur.
Parce que
de...
le charme, c'est aussi ça. Il faut laisser quelque chose à découvrir quand même. Il faut qu'il découvre quelque chose en toi. Avant, c'était le petit bout de pied qu'elle faisait voir.
Ouais.
Non, on n'est pas là. Les manches et tout. Bon,
ouais.
je ne dis pas non. ça, non.
Oui.
Mais quand même, un peu de...
Un peu de pudeur. Pour
un
toi, c'est, que c'est important
je
comme valeur chez une,
oui, oui.
Chez une fille.
Fille.
C'est chez une jeune fille.
Fille. Pas voilée. Bon,
non, non, je comprends. Voilée. Je comprends ce que tu veux dire.
Voilà.
À chaque fois que j'ai une tata ou une maman qui dit ça, je dis, je ne peux pas m'empêcher.
Oui.
À chaque fois de leur dire. Parce qu'on a de gros soucis. On a sur les agressions, sur le viol, etc.
Oui.
Et des fois, beaucoup de jeunes filles, ou plus jeunes,
mm-hmm.
peuvent penser que c'est par rapport à une certaine manière d'être qu'il y a eu ça. Et on doit tout le temps leur dire, non, ce n'est pas cette manière d'être
oui.
ou de faire
oui.
ou de te comporter qui a pu
oui.
générer cela chez
oui.
toi. Mais
si.
C'est que j'entends aussi quand tu me dis...
Mm-hmm.
que pour toi, il y a des valeurs qui sont importantes. Par
je
exemple, là, chez une fille...
un exemple
oui,
d'enseignante cette fois-ci.
Mm-hmm.
Je suis à l'ENS à l'époque, ce n'était
mm-hmm.
pas encore
l'école
la
normale
pastère,
supérieure.
Oui. J'ai une réunion au ministère et un devoir que je devais donner à mes étudiants.
Mm-hmm.
J'ai une collègue, je ne la nomme pas. Elle était au centre de recherche. Donc, je lui dis, est-ce que tu peux me surveiller mes étudiants le temps que j'aille à cette réunion au ministère, que je revienne? OK. J'y vais, puis je reviens. Ils n'ont pas fini le devoir. Et il y a un des étudiants qui vient me donner sa copie en me disant, « Madame, celle-là, il ne faut plus nous l'envoyer pour nous surveiller parce qu'elle nous perturbe. »
Mais lui, il ne pouvait pas se concentrer sur son devoir.
Oui, mais comment?
Je sais pas.
La surveillante était assise devant eux.
Mais elle aussi, elle avait là, sa jupe. Pourquoi elle a fait? Pourquoi elle a les jambes ouvertes? Pourquoi je dis ça aussi sur le micro?
Mais j'adore la personne, si je te le dirai après.
Oui.
Mais quand il m'a sorti ça, je dis non, c'est pas possible.
Il est bien. Je sais même
donc,
pas quoi dire.
Que
parce que autant
lien,
voilà autant je lien, dis chacun
la relation entre enseignant et élève mm-hmm. ou étudiant. Mm-hmm. Que ça soit une étudiante et un prof ou un étudiant et une prof.
Ouais, y a,
mais parfois
y a
tu sens
problème.
Des choses comme ça. Si tu on va dire si tu donnes le flanc à ça, tu ouvres la porte à tout. Tu connais il y a un film là, Mourir d'aimer.
Non, je ne le connais pas.
Tu ne connais pas ce
non,
film,
non,
tu
non.
vas essayer de le voir.
Je vais le regarder, oui.
L'étudiant et la prof qui sont amoureux.
Oh, ça, c'est tata, ça, c'est des schémas
et
qui
ça va jusqu'à la mort, jusqu'au suicide.
Ça, c'est des schémas
histoire
qu'on a
vraie.
Vus et qui sont terribles.
Oui. Donc, je
qui
dis,
sont
il y a
terribles.
Des choses, il y a des situations mm-hmm. où, bon, on est là pour apprendre. Mm-hmm. On va essayer d'apprendre dans les meilleures
dans
conditions.
Dans les meilleures conditions. Oui, je vois. Je vois parfaitement.
Ouais.
Comment s'est fait ton intégration à Dakar? Comment ça a dû être? Comment tu arrives chrétienne dans
oui.
une belle famille musulmane?
Voilà.
Ça, c'est la partie de ta vie mm-hmm. où, qui, des fois, qui peut être moins évident, peut-être mm-hmm. ou pas, on verra.
Ouais.
Et après, professionnellement, etc.
Oui.
Comment ça a fait?
Alors, Vadi, déjà... déjà
tu arrives avec ton
famille,
fils aîné.
Oui, je débarque avec un petit garçon de 8 mois. Mm-hmm. Bon, le Sénégal, je n'y avais jamais mis les pieds. Mm-hmm. J'arrive, je suis affectée dans un petit CEM. Et quand je me présente, le principal, la principale de cette école dit « Ah, je n'ai pas besoin de prof de français. C'est un prof de maths qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de prof de français. Ah, je suis là, qu'est-ce que je vais devenir ?»
Quel accueil.
D'autant plus que bon, je ne raconte pas la manière dont j'avais atterri à Dakar. Hein. Et alors, à l'époque, c'était le professeur Ibader Thiam qui était le directeur de l'école normale supérieure mm-hmm. et qui gérait aussi les pontins, dont Mamoussé, donc les anciens pontins.
Mm-hmm.
Et il lui dit, mais amène-la à l'ENS, elle va faire une année de formation pédagogique mm-hmm. et après, on va l'affecter dans une autre école.
Mm-hmm.
Donc, c'est comme ça que je suis venue à l'ENS.
Mais tu l'as jamais quitté, l'ENS.
Première promotion de la réforme.
Mm-hmm.
On était en 75. Donc, j'ai commencé là. J'étais très contente d'avoir eu une année pédagogique, alors que mon année à Ouagadougou, c'était 15 jours de badigeonnage pédagogique.
Mm-hmm.
Alors, vous imaginez, entrer dans une classe sans avoir été formée. Je dis, c'est comme quelqu'un qui devient pilote, il n'a pas appris à piloter l'avion.
Mm-hmm.
Enfin, le risque qu'on mm-hmm. on prend avec des enfants, avec une classe. Donc moi, j'insiste beaucoup sur l'importance de la formation pédagogique.
Mm-hmm.
J'ai toujours dit, je reste à la FASTEF plutôt qu'à l'université,
mm-hmm.
parce qu'on apprend à apprendre.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est important. Donc j'ai eu le temps de m'acclimater, mais je me rappelle ma première leçon d'essai à l'école normale avec des élèves du lycée Seydou Nourotal
mm-hmm.
qui sont venus dans une de nos classes et j'entends une qui murmure « Hanaki Nyakla
mm-hmm. ».
Ouais, Nyakla.
Ah oui, c'est ça.
Pas plus tard qu'avant-hier, je prends un taxi pour rentrer mm-hmm. chez moi. Je parle au lofin, mm-hmm. au taximan. Il rigole et il me dit « Toi, tu es française ». Je dis « Moi, française ».
Ah, tu es pas française.
Avec ma peau noire et tout là. Il me dit « Oui, oui, tu es française ». Je dis « Mais pourquoi tu dis que je suis française ?» Il me dit « Ma façon de parler Wolof là, ça le fait rire.
Ouais. »
Donc,
non, mais oui.
Me voilà, ça mm-hmm. c'était un de mes problèmes.
Hanaki, oui, c'est ça. Ça, je pense
l'accent.
Qu'il faut qu'on... C'est l'accent, mais c'est surtout aussi pour moi cette appellation à chaque fois de te renvoyer « Nyakla, Nyakla, Nyakla ».
Alors, j'ai dit par exemple, au Sénégal, on te salue avec ton nom de famille.
Mm-hmm.
Wow,
Diop, Ndiaye.
Moi,
si,
quand j'arrive, on me salue, santé va, on te dit ça. Je réponds bonne année. On
bonne
me
année.
Répond bonne santé.
Et...
Pourquoi? Parce que pour eux, bonne année.
Et...
Bon, donc je décide que je m'appelle Diagne maintenant.
Oui.
Pour éviter que le nom de mon père devienne l'occasion
exactement.
À chaque moment de l'année de me dire bonne année.
J'ai le même, mais non, mais j'ai le même souci avec le nom. À chaque fois qu'on me dit Santoba et que je réponds Benjeloun, j'entends hein.
Voilà.
Etc. Après, des fois c'est drôle, mais
oui.
des fois.
Mais dans le bus, je prends le bus à l'époque. Hein.
Mm-hmm.
Si je m'adresse au receveur en français,
mm-hmm.
il se fâche. Moni, je suis assimilée. Je fais semblant de ne pas à la banque. Une fois, j'ai dit, monsieur, j'avais ma carte, mon passeport voltaïque.
Mm-hmm, mm-hmm.
Pourquoi je ne lui parle pas Wolof? Je dis, mais je ne parle pas assez bien le Wolof. J'ai fait des fautes. Donc, parfois, il y a de l'intolérance. Mais ça, je l'avais déjà. Pas aussi violent, parce que quand on faisait les études, Les groupes d'étudiants, c'est par nationalité. Oui, hein. Et spontanément, le Wolof est une langue parlée par tout le monde. Ce n'est pas le cas dans les autres pays où le français est la langue de communication. Donc souvent, ils ne se rendent pas compte que...
Et on passe direct au Wolof dès qu'on se retrouve en Sénégalais.
Donc ça, c'était déjà, ça m'a un peu préparée. Et puis, bon, je suis arrivée, on avait quand même des amis. On s'était fait beaucoup d'amis à Bordeaux. Et quand on est venu à Dakar, notre maison était une sorte de lieu de rassemblement. Il m'arrivait de donner à manger à 13 personnes à midi régulièrement. Bon, pour moi, c'était l'ambiance, quoi. On était ensemble, on était bien, on partageait beaucoup de choses. Et j'ai appris à aimer le cinéma avec les récits d'actes de Tata Annette. J'ai appris à aller aux expos de peintres avec Kalidou Kassé, qui est devenu un ami. Donc, pour dire qu'au fond, mon insertion, je l'ai réussie parce qu'il y a des activités culturelles auxquelles je me suis accrochée aussi comme une bouée, tout en apprenant mon métier d'enseignante. Et puis peut-être aussi ma carrière, ça m'a permis d'avancer un peu, de passer d'ancienne stagiaire de l'ENS à formatrice. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important. Et de me dire qu'à tout moment, ce que je dis à mes étudiantes et élèves professeurs, il faut vous dire que vous pouvez toujours avancer dans le métier. Tel grade, je te présente le recteur Tube, c'est un ancien instituteur. Donc, il n'y a pas de frontière. L'essentiel est que tu fasses des efforts, que tu travailles quand tu fais ta thèse, quand tu fais des recherches, que tu sois sérieux. Je pense que c'est ça aussi, par rapport à toi-même et par rapport à l'institution dans laquelle tu es. Voilà.
Comment
maintenant, par rapport à la belle famille, disons, les fêtes, on allait à Saint-Louis. On allait en vacances à Saint-Louis. L'Hydroba, ce n'est pas comme aujourd'hui. Allait à la plage. Et dans le quartier où mes beaux-parents étaient piquines, on pouvait boire 9 tasses de thé dans la journée. Parce que partout où on passait, Niette Abdou, Niette Abdou. Et c'était sympa. On se retrouvait. Bon, le poisson ne coûtait pas cher.
Non, pas du tout.
Mes beaux-parents, ma belle-sœur, elle va à la plage et ramène un poisson frétillant pour le Thieboudien Saint-Louisien.
Exactement, pour le Thieboudien Saint-Louisien. Oui, c'est délicieux.
Donc, j'ai été bien accueillie. Et puis, j'avais des amis aussi de Mamoussé qui m'ont adoptée tout de suite. Même avant que j'arrive au Sénégal, je dis toujours ça. Je dis, un tel, il m'a envoyé un cadeau. Quand j'étais à Bordeaux, je n'oublie pas ça. Parce que la manière dont on t'accueille, dont on t'insère dans la famille, c'est important. Je ne me suis pas sentie rejetée au Sénégal parce que c'est le président Senghor qui nous a dit « Elle est sénégalaise parce qu'elle a épousé un Sénégalais. »
Exactement, j'ai choisi de te présenter comme sénégalaise.
Voilà, je suis sénégalaise, même si de temps en temps, ça m'a fait des jaloux.
Oui.
Il y a une cinéaste burkinabé qui est arrivée là et qui m'attend pour faire un film sur les burkinabés du Sénégal.
Bon, quand tu vas aller dans le film, tu seras burkinabé, c'est pas grave.
Non, mais là, je suis sénégalaise.
Là, tu es sénégalaise pendant qu'on finit l'entretien. Tu es sénégalaise.
Je le suis.
Après, tu retournes, tu redeviens burkinabé.
Donc, ça aussi, je pense, j'ai eu des ici, j'ai des amis. Les parents de mes collègues sont devenus des mamans.
Mais c'est ça, les personnes qui te connaissent disent ça. Et disent aussi que tu es d'une reconnaissance sans commune mesure en règle générale, que tu n'oublies pas toutes les belles choses que les personnes ont pu faire pour toi. Et tu me parles de souvenirs de Bordeaux, de gens qui t'ont et que tu n'oublies pas jusqu'à présent.
Jusqu'à présent, oui, ça reste très fort, très fort, oui.
J'espère pouvoir prendre un peu de cette qualité-là parce que ma mémoire est terrible.
Non, c'est peut-être que tu vois beaucoup trop de gens.
Gratitude et reconnaissance sont des choses qui sont importantes pour moi, mais des fois, je peux passer à côté.
Moi, je suis attachée
à quelqu'un. Mais tout le monde te le dit de toi. Tout le monde le dit de toi.
Oui. Mais, écoute, c'est la moindre des choses. C'est être honnête aussi quelque part. Hein. On n'est plus amis parce que je suis devenue je ne sais pas quoi. Non, non, je ne connais pas ça. J'ai une amie. Le jour où elle a découvert que mon père avait été ministre, elle me dit, tu m'as jamais dit ça. J'ai dit, tu as besoin de ça pour être mon amie? Non, tu n'as pas besoin de ça.
Absolument pas.
On se choisit, on s'aime et puis voilà.
Oui, c'est exactement ça et c'est très beau de l'entendre comme ça. En tout cas, moi, ça me ressemble un petit peu par rapport à tout ça.
Ma
je t'entends parler, je vois la contribution de ton père à ce que tu es devenu aujourd'hui. Oui. Je vois celle de ta mère à ce que tu es devenu aujourd'hui. Mm-hmm. J'entends des bribes de ton mari. Si tu devais parler de lui, qu'est-ce que tu dirais?
Si je devais parler de lui.
Oui, qu'est-ce que tu dirais?
C'est pas facile, hein? On m'a déjà piégé un peu sur cette question.
D'accord, bah, ok.
Bon, alors, je dis nous deux, d'abord, ça a été la complicité dans les études. Mm-hmm. Je t'ai dit qu'on avait fait philo tous les deux. Moi, je suis allée pour faire philo.
Et tu as fini en français?
Et lui, il est venu.
Il a fait le chemin contraire.
Il a fait le chemin inverse. On lisait des livres, oui. On les partageait. On communiquait d'abord par les livres. Mm-hmm. Et j'ai dit peut-être ce qui nous a... Ça, c'est la petite anecdote. Hein. Mm-hmm. Il me passe un livre sur Platon. Moi, j'étais dans un autre foyer, une autre résidence. Et je suis dans un bus d'étudiants. Je dis à un monsieur qui descend à l'arrêt de bus des garçons, là, tu peux donner ça à telle chambre, le livre, là, parce que je ne voulais pas descendre la nuit. Mm-hmm, tu vois, mm-hmm, je te dis encore. Après, je lui demande, tu as eu ton livre, je l'ai donné à quelqu'un, là. Quoi? Non, je ne l'ai pas eu. Voilà un petit roman quelque part. Je dis, c'est peut-être des petits trucs comme ça.
Exactement. J'espère que tu lui as rendu le livre quand même plus tard.
Non, après,
ou jusqu'à présent,
il a
pris disparu.
Il a pris certains de mes livres.
Alors, il a pris certains de tes livres.
Lui, quand il m'a connu, mm-hmm. j'avais le dictionnaire Lalande, mm-hmm. le dictionnaire de philosophie, mm-hmm. que tout prof de philosophie rêve d'avoir. Qui me l'a offert? Mon père pour ma fête en terminale. Mm-hmm. Donc j'ai dit, c'est à cause de lui. Hein.
Mm-hmm. C'est à cause de lui, c'est à cause de lui, je suis d'accord.
Alors Mamoussi me dit, quoi? Tu mm-hmm. as le dictionnaire de Lalande? Je dis, oui, j'ai le dictionnaire de Lalande.
Oui. Comme quoi?
Donc, c'est des petits trucs comme ça. L'amour des livres.
Autour du livre, autour de ça. Autour de la connaissance?
Oui, autour de la connaissance, des échanges comme ça. Le cinéma, à l'époque, on allait beaucoup au cinéma à Bordeaux. Mm-hmm. Il y avait la nouvelle vague, il y avait mm-hmm. plein de trucs. Et puis, il y avait le défi de passer ce concours de l'école normale supérieure. Mm-hmm. On a eu, par exemple, notre témoin de mariage. C'est aujourd'hui le plus grand écrivain de Guadeloupe, Ernest Pépin. Mm-hmm. Mais qui arrive en retard à notre mariage. Oui. Parce qu'il a dormi. De même qu'il a dormi le jour du concours, il a raté le concours parce qu'il ne s'est pas réveillé. Mais aujourd'hui, c'est le plus grand écrivain guadeloupéen. Mais c'est quelqu'un qui ne pouvait pas être fonctionnaire. Voilà.
Oui.
Il fallait
non,
le
fallait
comprendre.
Pas, non, non, fallait
sa
pas
vocation,
ce
n'était pas d'être encadré. Là,
comme... Oui, de faire du 8h-17h.
On a connu des gens comme ça.
Oui.
Comme le docteur Charles Venn,
oui,
dont
le Saint-Louis
a fait prépa avec moi.
Eh ben,
Maryse Venn.
Comme quoi, le monde est très, très, très,
très
petit.
Voilà, ça te ramène à Saint-Louis.
Ça me ramène à Saint-Louis. À chaque fois, il y a toujours oui. un truc qui me ramène à Saint-Louis. Oui. Et je dis ça assez souvent. Des fois, compter Dakar ou même vivre Dakar me oui. fait retourner à Saint-Louis.
Saint-Louis, oui, on s'attache. C'est une ville adorable.
Oui.
Le rythme est différent. C'est quelque
pas pareil,
chose.
Hein.
Le fleuve, la mer.
Ce n'est
c'est
absolument pas pareil. J'ai hâte d'y retourner.
Je te comprends.
Quand tu vois les apports qu'il y a eu dans ta vie, mm-hmm. de ces différentes personnes, le legs de ta mère, le oui. legs de ton père, oui. ce que ton mari mm-hmm. a apporté dans ta vie sont des choses qui sont claires.
Oui.
Si tu devais aujourd'hui t'interroger sur ton propre legs à toi, mm-hmm. d'abord en tant que mère.
En tant que mère.
D'abord en
tant
qu'épouse.
Oui.
D'abord en tant que mère. Ensuite en tant qu'épouse.
Oui, mère et ensuite avant en tant qu'épouse. Épouse d'abord avant.
C'est comme tu veux, voilà. mais les trois différents, mère, épouse et professionnelle.
Et professionnelle. Donc, d'abord en tant qu'épouse, mm-hmm. je dis, on ne se ressemble pas. Mm-hmm. On dit qui se ressemble, ça ressemble. On mm-hmm. est assez différents, mm-hmm. mais on est complémentaires quelque part. Et mm-hmm. je dis, quand il m'arrivait de regarder des couples, mm-hmm. De chez moi, là, des voisins qui reçoivent des visiteurs. Et je dis, à force d'être ensemble, ils finissent par marcher de la même façon.
Oui.
Il y a des sortes de complicité qui se créent là.
Mm-hmm.
Et moi, je dis, ça, c'est un des ciments aussi du couple, d'arriver à se comprendre. On se connaît, on connaît nos différents défauts. Mm-hmm. Arriver à se pardonner, mm-hmm. ça, c'est très important. À oublier. Si on peut, mm-hmm. même si on ne peut pas, on efface un peu les ardoises
mm-hmm.
et on recommence ça, il faut savoir le faire. Mais ça, c'est un apprentissage, ce n'est pas facile.
Mm-hmm.
Mais il faut discuter, il faut communiquer. Moi, je le conseille, je ne suis pas assistante en couple, mais mm-hmm. je crois que c'est important de se parler, que tu saches ce que j'aime et ce que je n'aime pas, que tu ne me fasses pas des choses que je n'aime pas. Si tu continues à le faire plusieurs fois, je dis, je vais me venger.
Mm-hmm. Oui, j'entends, j'entends très bien. Oui.
Réciproque, mais en fait, bon, pas de rancune non plus. Mm-hmm. Parce que, bon, c'est la vie, hein. Nul n'est parfait. Mm-hmm. Nul n'est parfait. Donc, je crois que ça, ça nous a aidés. Et peut-être qu'on se disait aussi, tous les deux, on n'a pas le droit d'échouer. Mm-hmm. Parce qu'il y a plein de gens qui attendent notre échec. Mm-hmm. Ça nous a peut-être aidés à nous tenir un peu sur les rails. Oui. Et aussi dans la difficulté, parce que ce n'était pas toujours facile. Hein. Je dis, par exemple, un jour, à force d'avoir, je ne sais pas, 13 personnes à manger à la maison, un jour, j'ai pris les bouteilles, là, les bouteilles de boisson pour aller à Sam, rendre la consigne et avoir le petit déjeuner. Est-ce que tu imagines ça?
Oui.
Il y a des moments où ce n'était pas facile parce qu'on n'avait pas les mêmes salaires que les enseignants ont aujourd'hui. Mm-hmm. Moi, je sors avec 2 maîtrises, le KS, mm-hmm. j'ai pas 100 000 francs. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, quels sont les enseignants qui acceptent avec ces diplômes-là? Donc, il y a aussi, je dirais, cette vocation. Mm-hmm. Être enseignant, ce n'est pas devenir super riche. Mais ta richesse, ça sera quand tu verras devant toi un doyen de la fac de médecine qui a été ton élève avant vous. Mm-hmm. Tu es fière. Mm-hmm. Tu vas en Gambie, l'ambassadeur du Sénégal en Gambie dit, « Madame Diagne, vous avez été mon professeur. Mm-hmm. » Wow.
Oui, oui, oui.
Oui, c'est des choses comme ça qui sont absolument fantastiques mm-hmm. et qui montrent au fond que ce qui est important aussi au plan professionnel, je me suis convaincue qu'aucun enfant n'est idiot. Mm-hmm. Il faut voir comment apprendre mm-hmm. à cet enfant. Il faut savoir le prendre. Il faut lui donner confiance en lui-même, petit mm-hmm. à petit, 0 sur 20 en dictée tous les jours. Mm-hmm. Ce n'est pas agréable. Mais comment vas-tu faire, toi, l'enseignante, pour que ce petit-là mm-hmm. ait 5 sur 20, 10 sur 20, et petit à petit, il maîtrise l'orthographe. Mm-hmm. Et dans toutes les matières, c'est un peu ça. Mm-hmm. Genre, je crois que l'enseignant, il doit être cet accompagnateur, ce mentor qui donne la force de continuer à apprendre mmh. dans la réussite. Parce que la réussite, on dit ça appelle la réussite. Mais si c'est tout le temps l'échec, mmh. c'est négatif. Mmh. Et parfois, il y a des revers. Je te donne un exemple. J'ai un étudiant, il doit être inspecté. Première inspection, la commission ne le trouve pas là où il est. Mmh. Donc, on dit, il n'est pas là. On déclare qu'il a échoué. Mmh. Je rattrape. Mmh. Je replanifie, j'étais chef de département, une autre commission. On y va, qu'est-ce qu'il raconte? Je ne sais plus, il y a eu encore un deuxième échec. J'ai dit, bon, il te reste une chance. Mmh. La prochaine, je vais y aller avec moi-même et une sommité mmh. de la Commission nationale de français, de l'inspection générale. Mmh. On va l'inspecter, c'est moyen. Mmh. Je lui ai dit très moyen, on va même dire en dessous de la moyenne. Mais comme c'est quelqu'un de très maladif, je me dis, il a besoin d'être titularisé et puis il sera sûrement dans un bureau. Mm-hmm. On le reçoit, on va dire, avec indulgence. Mm-hmm. Mais à peine reçu, on va dire, ce faux malade, ce malade imaginaire, j'ose pas dire ça, il se transforme en candidat à venir être formateur à la FASTEF. Mm-hmm. Je le regarde droit dans les yeux. Pour lui dire, c'est pas comme ça qu'on devient formateur à la FASTEF. D'abord, tu n'es même pas, tu es à peine titulaire. Mm-hmm. Tu vas être avec des gens qui ont le même grade que toi. Il faut une formation pour ça. Mais ce genre de personnes capables de tout mm-hmm. pour arriver où ils veulent arriver, ça m'a formé aussi. Ça m'a appris à, je sais pas, c'est de la psychologie, à regarder quelqu'un, à deviner un peu. Dans cette personne-là, l'honnêteté, je pense, c'est important pour moi. Mm-hmm. La franchise et tout. La tricherie, je vais dire, ça m'éloigne. Mm-hmm. Ça m'éloigne. Mm-hmm. Mais dans la vie, tu vas rencontrer des gens comme ça qui vont t'apprendre à te méfier, à ne pas être trop confiant mm-hmm. au plan professionnel. Ça aussi, c'est dans la vie. Hein. Mm-hmm. Donc, bon, alors, professionnellement.
Et, oui.
Ensuite, on a en dit tant qu'épouse, en tant qu'épouse,
hein,
en tant que mère.
Quel serait ton leg? Oui.
En tant que mère, avec les enfants, bon, je vais dire À la maison, je ne pense pas que je fasse de différence entre garçons et filles, mm-hmm. même si le fait d'être dans la société sénégalaise, mm-hmm. ça m'a amené à renoncer à peut-être des choix que j'aurais fait si j'étais dans une autre société. Mm-hmm. Par exemple, je débarque au Sénégal avec un enfant, mais en une année, je me retrouve avec deux autres à la maison à élever. Mm-hmm. Je suis une maman de grands enfants, mm-hmm. que je n'ai pas eu bébé. Mm-hmm. Ça impose un autre rapport aux enfants. Mm-hmm. Donc ça aussi, ça m'a formée quelque part. Et puis après, j'ai d'autres enfants. J'en ai d'autres à la maison que j'éduque. Mm-hmm. Et tout ça, ça peut perturber ton schéma pour tes enfants. Mm-hmm. J'ai une amie dont les enfants ont dit, à un moment, on se demandait si on était vos enfants, vous deux là. Tellement il y avait d'autres à côté. Mmh. Et parfois, tu sacrifies tes enfants sans le savoir. Parfois, tu les fais vivre dans une sorte de promiscuité qui peut être dangereuse.
Qui peut être dangereuse.
Dans des familles.
Oui.
On sait comment ça se passe.
Oui.
Voilà. Donc, ces choses-là, si tu n'es pas préparé à ça, tu es comme un aveugle au plan culturel.
Oui.
Donc, tout ça, il faut l'apprendre et prévenir. Mmh. Prévenir si tu as des filles. Et même les garçons, exactement. Parce qu'on a notre amie qui a publié sur le viol des petits garçons. Mm-hmm. Ce n'est pas seulement les petites filles qu'on viole. Hein. Mm-hmm. Donc, une maman, c'est aussi ça, savoir protéger tes enfants, les accompagner sans être le cerbère qui les empêche, la folcoche qui...
Mm-hmm. Exactement.
Voilà, il y a un peu ça. Et puis, les crises d'adolescence, tout ça. Ça en fait partie.
Ça en fait partie.
Alors, contre ça, oui. Je dis, moi, quand j'avais 13-14 ans, j'ai adoré le livre d'Anne Frank. On est dans mm-hmm. les livres, oui. Là, le journal d'Anne Frank. Oui. Une petite fille enfermée dans les caves d'un immeuble, mm-hmm. parce que si elle sort, on va oui. l'attraper.
Exactement.
Donc, il y a des lectures qui ont été, pour moi, des révélations. Mm-hmm. Et je dis, dans les vies d'enfants, il faut s'accrocher à quelque chose. Mmh. La littérature, ça peut aider.
Ça peut aider.
Une tata gentille ou un tonton compréhensif, ça peut t'aider aussi.
Exactement. Et je vais continuer à pousser la question sur oui? la parentalité, comme on dit. Mmh. Si tes enfants devaient parler de toi, à ton avis, qu'est-ce qu'ils diraient?
Pas plus loin que hier, mm-hmm. Je suis à la maison avec quelqu'un bon, qui est venu pour quelque temps à la maison. Et mon fils lui dit, celle-là, si tu la suis, tu ne sais pas à quel rythme elle fonctionne. Tu vas revenir cassée à la maison. Le... Non, ça, c'est, ça
oui,
c'est moi.
Oui.
Et quand j'ai cessé d'être la présidente de l'association des profs de français, mm-hmm. ils ont tous dit, ouf, on va enfin avoir notre maman à nous. Mm-hmm. Pour dire que l'association, nous l'avons portée ensemble, chacune de nous, les membres du bureau. Mm-hmm. C'était pas facile, hein.
Oui.
Mais on avait des défis. Je pense mm-hmm. qu'on en a relevé quelques-uns. On est fiers aussi d'avoir fait ça dans l'enseignement du français. Mm-hmm. Et parfois, c'est au prix de la dépense quotidienne. C'est notre poche qui y allait.
Qui a souffert. Pour que ça devienne ce que
pour
c'est
pour la
aujourd'hui.
Bonne cause.
Oui.
Donc, c'est un peu ça. Et puis, savoir compter sur la maman, même quand on fait des petites bêtises. Mm-hmm. Maman bouée. Parfois, je crois que je suis un peu ça. Mm-hmm. On me corrige un tout petit peu.
Chamoré ta sonha na sombra de bojo magoado de uma pequena gente de cor perfumado de chamoré sonhar na sombra de bojo magoado de uma pequena gentil de cor perfumado assim de chamoré.
Nous sommes presque à la fin.
Oui.
Et je finis toujours, comme je dis, avec ces deux dernières questions-là. Mm-hmm. considères-tu que tu es à ta place?
Aujourd'hui.
Aujourd'hui, tu es à ta place?
Je crois que oui. Mm-hmm. Je suis une grand-mère comblée.
Oui, oui.
J'ai des petits-enfants mm-hmm. biologiques, mais mm-hmm. d'autres qui ne le sont pas.
Mm-hmm.
J'ai des filles aussi biologiques et d'autres qui ne sont pas, mm-hmm. qui sont mes filles que j'aime de la même façon. Et je dis aujourd'hui, quand je me présente à mes étudiants, quand on me donne l'occasion encore d'être en classe devant des élèves professeurs, comme pour le 8 mars, ça s'est passé, je dis, c'est la mémé. Mm-hmm. À force de me faire appeler mémé par mes petits-enfants, mm-hmm. les étudiants ont compris ça, mm-hmm. donc je suis la mémé.
Oui.
Je pense que ça, c'est aussi une relation que je suis à leur disposition, parce que je dis, dans la mesure où je peux apporter quelque chose à quelqu'un,
mm-hmm.
dans l'enseignement ou dans la vie de tous les jours, quand je peux,
mm-hmm.
je le fais. Quand je ne peux pas, bon, je dis, ah, je suis désolée, mais je vais essayer de te trouver
mm-hmm.
une solution. Et parfois, il y a eu des cas de détresse. Par exemple, un enseignant qui a des problèmes de, comment on appelle, mobilité.
Mm-hmm.
Mobilité réduite, on l'aide,
mm-hmm.
mais on va l'aider combien de fois?
C'est ça.
Ça devient... comment dirais-je, une habitude d'être assistée et tout. Bon, ça aussi, c'est pas bon.
Mm-hmm.
Donc, on va y mettre un peu un terme.
Mm-hmm.
Il y a des situations, tu rends service, mais après, tu deviens, je n'ose pas dire, une poire.
Oui.
Bon, là, donc, tu peux mettre un peu le haut là.
Exactement.
Tu gères dans l'utile, dans le nécessaire. Mais je dis, il y a toujours ce sens de la dignité. D'abord, compter sur soi-même. Ne pas toujours avoir cette politique de la main tendue mm-hmm. qu'on reproche aux Africains, nos mm-hmm. États, etc.
Mm-hmm.
Savoir compter sur nous-mêmes, je pense que c'est important.
Mm-hmm.
On peut toujours trouver une situation, une solution. Et comme je dis, c'est 24 heures, mais pas 25.
Mm-hmm.
Ça permet de survivre.
Oui, et de redémarrer un autre
et de
jour.
Repartir du bon pied.
Si tu avais 20 ans
oui.
cette année... Celle-là, tu l'as entendue plusieurs fois. Hein? Si tu avais 20 ans cette année...
Quand j'ai eu 20 ans...
Oui, mais cette année, l'exercice, c'est de faire ça. C'est de...
Non, mais si ça tu avais... me renvoie à quand j'ai eu 20 ans. J'ai fait une petite photo de moi quand j'ai eu 20 ans. Parce
oui.
que à l'époque, avoir 20 ans pour nous, c'était magique. Hein?
Mm-hmm.
Je ne sais pas si c'est toujours la même chose aujourd'hui. C'est 18 ans maintenant, la majorité.
Oui, c'est 18 ans, la majorité.
C'est 18 ans. Mais nous, c'était quelque chose. Hein? Et comme oui. je disais, on avait peur de ne pas être mariée à 25 ans.
Oh, ok.
Pour ça, c'est aussi un autre problème. Hein.
Oui, on est d'accord.
Hein?
Mais c'est la pression, par contre, elle existe toujours. Dès 22
toujours.
Ans, à peu près 22 ans, 23 ans, tu
ça
as tes parents qui vont commencer à,
voilà,
la pression,
à s'inquiéter.
Exactement.
Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je pense que je profiterais, je vais dire, de toute cette ouverture
mm-hmm.
que la modernité offre
mm-hmm.
par l'Internet.
Oui.
Par exemple, dans le choix des études. Ce ne sont plus des filières fermées.
Mm-hmm.
On voit des gens qui sont des littéraires et qui arrivent à aller dans des branches où nous, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait pu y aller. Donc, je trouve que c'est une richesse. Il faut savoir en profiter. Mais en même temps, je voudrais dire, le monde est devenu plus méchant.
Le monde est méchant, hein?
Oui, parce que le visa qu'on te demande, mm-hmm. le coût des études à l'extérieur, quand tu dois y aller, bon, mm-hmm. c'est vrai, on a des structures chez nous. Mais je pense que c'est astronomique.
Mm-hmm.
C'est astronomique. Donc, que faire? Il y a des gosses désespérées. Tous ceux qui prennent les pirogues, les mm-hmm. bateaux, tout ça, ça fait mal au cœur. Hein.
Oui.
Donc, essayer d'être heureux ici,
mm-hmm.
mais toujours se dire, je vais essayer de faire mieux que ce que je suis dans le présent.
Mm-hmm.
J'ai des possibilités de faire. Je peux faire des stages. Moi, je dirais, si j'avais 20 ans,
mm-hmm.
formation et emploi conjugué.
Mm-hmm.
Je crois que c'est la meilleure formule. Au lieu de faire des études jusqu'à avoir le master
mm-hmm.
et tu n'as jamais mis les pieds dans le monde du travail et après tu te retrouves paumé, autant progressivement visiter ce monde du travail et dire voilà, si je dois m'y insérer, je suis déjà préparée.
Mm.
Voilà.
André-Marie Bonané-Diagne,
merci
d'avoir accepté de participer
merci
à cet épisode
ce
de Conversation
pour
féminine.
Cette voix
merci beaucoup.
Que la prof de français adore.
Merci, Tata. Merci
et
beaucoup.
Et merci à toute l'équipe qui t'accompagne.
Merci, c'est gentil. Merci
et
beaucoup.
Et en ce 8 mars, je vais dire, j'ai une pensée un peu spéciale pour une sœur plus jeune que moi, que j'ai eue comme étudiante, qui est partie, Madame Kourokanya. De façon très brutale, ça va faire un an au mois d'avril, avec qui on a fait beaucoup de choses. et donc à toutes ces femmes généreuses qui se sont données pour l'éducation des enfants.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à chacune d'entre elles pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elles ont pu faire et ce qu'elles ont fait de nous. Merci beaucoup.
Merci.
À très bientôt.